Emmanuel Ravasi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes journaliste, grand reporter, vous êtes passé par les plus grandes rédactions. Vous avez passé les dernières années au Qatar et vous avez coécrit donc avec votre confrère Dominique Viano le roman Cagliostro, l'ultime secret. Alors dans quel contexte êtes-vous passé finalement à la fiction après tant d'années à raconter et à expliquer le réel ?
Eh bien, je crois que la réponse est contenue dans la question. En l'occurrence, il vient peut-être un moment où on a besoin de passer à la fiction pour oublier le réel, d'une part. Et puis, simplement, je dirais, pour se détendre et détendre finalement ses lecteurs. Pendant des années, les gens qui ont lu mes livres, qui ont vu mes reportages à la télévision, ont vu essentiellement en fait des enquêtes ou des reportages de guerre. Donc dans des contextes et des pays parfois difficiles, alors que écrire un roman de fiction comme Cagliostro, l'ultime secret, permettait finalement de raconter le monde, hein, puisque l'action se passe bien sûr à Barcelone, mais également dans toute une partie du Proche-Orient, et donc de raconter finalement ces régions-là à travers le prisme du roman, de l'aventure, et évidemment à travers des aventures presque de rêve, parce que Cagliostro, c'est un personnage de rêve.
Justement, pourquoi avoir choisi ce personnage ?
Alors Cagliostro est un personnage qui a existé, hein, qui a vécu au XVIIIe siècle. C'est un personnage qui a été, impliqué dans l'un des grands scandales du XVIIIe siècle, à savoir l'affaire des colliers de la reine. Ce personnage, Cagliostro, est un haut responsable franc-maçon. Il participe, en tout cas l'histoire le jugera comme ça, comme étant membre d'un complot franc-maçon contre la monarchie française. Alors il faut savoir que Cagliostro, parallèlement à ça, se dit immortel, qu'il est consulté dans tout Paris pour ses prédictions, parce qu'il se dit également médium, et qu'il va devenir en fait le conseiller d'un grand nombre de gens, à commencer par le cardinal de Rohan, qui est le grand aumônier de France. Donc, ce qui lui permet évidemment de côtoyer les personnes les plus puissantes de l'époque. Et donc c'est vrai que c'est un personnage assez intéressant, parce qu'en réalité il intervient dans une période de l'histoire de France, qui est une période de crise, un peu comme aujourd'hui, où finalement, son populisme, parce que c'est un personnage éminemment populiste qui joue sur les peurs communes, va arriver à se retrouver le conseiller de gens et à avoir une influence sur les plus grands décisionnaires du royaume de France, qui vont conduire probablement, en tout cas c'est comme ça que le racontent certains historiens, à la Révolution française et bien évidemment à la chute de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le roman se passe entre Orient et Occident, il se passe également à Barcelone, le personnage principal vit à Barcelone, on le suit spécialement à travers le Raval, à travers Sarria, pourquoi spécifiquement ces deux quartiers ?
Alors d'abord parce que le quartier du Raval est un quartier populaire que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de vivre en Asie centrale, à Kaboul, mais de me déplacer assez régulièrement au Pakistan, à Peshawar, et la première fois que je suis allé visiter le Raval, j'ai senti respirer des odeurs qui me rappelaient énormément Peshawar. Donc il y a le côté, je dirais, affectif, mais aussi une réalité, c'est que le Raval, c'est un quartier dans lequel il y a quand même une très grosse communauté pakistanaise, une importante communauté également marocaine, donc ça me rappelle l'Orient et j'aime l'Orient de façon très claire. Après, Sarria, c'est un quartier qui est un quartier très calme, à l'inverse finalement du Raval, un quartier assez familial, qui inspire la tranquillité. Et il me semblait intéressant finalement de positionner une partie de l'action dans ce quartier très calme, où on s'attend absolument pas à croiser à la fois des assassins, des espions, des complotistes. Il y a ça. Et il y a une autre chose aussi, c'est que pas loin de Sarria, si je ne me trompe, il y a un consulat des États-Unis où, paraît-il, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans la presse espagnole, il y aurait une antenne de la CIA ou du FBI travaillant sur l'antiterrorisme. Voilà, donc je trouvais que finalement Sarria, c'était assez propice à la fiction.
Et il y a aussi la place d'Artos où nous nous trouvons actuellement, une histoire particulière par rapport à cette place.
Écoutez, la place d'Artos, c'est un endroit où j'ai pris l'habitude de venir très souvent avec un certain nombre de confrères journalistes. La première fois que je suis venu boire un pot à Sarria, c'était avec un journaliste qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Nadav Neos, qui est un très grand photographe de guerre et qui est un de mes vieux camarades, avec lequel j'ai couvert beaucoup le conflit israélo-palestinien pendant quelques années. Donc Saria me renvoie toujours au Proche-Orient et me renvoie évidemment à mon, comment dire, à mon histoire, sachant que les bureaux de notre rédaction sont à Saria, non loin de la place d'Artos.
Alors voilà, vous vivez maintenant à Barcelone. Est-ce que c'est une ville qui est pour vous inspirante? Est-ce qu'elle est inspirante pour un romancier?
Bah, je crois que Barcelone, elle est plus qu'inspirante. Barcelone, c'est une ville éminemment romantique. C'est une ville qui a inspiré les plus grands, que ce soit Hemingway notamment, mais on a par exemple les témoignages de Laurie Lee, de Orwell. Donc je pense que c'est une ville qui se situe dans la littérature internationale, d'une part, et puis une ville qui est une ville de journalistes. Il y a toujours de l'action, toujours de l'activité, toujours de l'information à traiter. À Barcelone, c'est par ailleurs, j'ai le sentiment, une ville extrêmement européenne.
Un autre ouvrage en préparation ?
Alors oui, il y a un autre ouvrage en préparation qui cette fois est un ouvrage qui parlera de la guerre. Donc c'est un ouvrage qui va sortir dans quelques mois et qui est un ouvrage sur les révolutions arabes, et un autre ouvrage qui est déjà en préparation sur les guerres d'Afghanistan et d'Irak.
Alors ma dernière question, ça va être pour les auditeurs. Bientôt l'été, bientôt les vacances, on a davantage le temps de lire. Quel roman vous nous conseilleriez?
Alors écoutez, si un roman que je conseille, c'est évidemment Cagliostro, l'ultime secret, c'est évident. Après, écoutez, j'ai lu une très belle histoire récemment. C'est un livre qui s'intitule Une enfance comanche, qui est tiré d'une histoire vraie. Je crois que c'est une très belle histoire, alors qu'il n'y a rien à voir avec l'Espagne, qui est une histoire finalement, ou un pan de l'histoire de l'Amérique au 19e siècle. Très beau livre que j'ai découvert tout à fait par hasard dans une librairie. Je crois qu'il a été tiré à peu d'exemplaires, qui est une histoire absolument formidable de femmes blanches qui se retrouve à être élevé dans une tribu comanche dans les années 1850.
Merci Emmanuel Ravasi.
Je vous en prie, c'était un plaisir.